Point de lendemain, alors, ce récit libertin que vous considérez comme un joyau de la prose française, ouais. C'est aussi un texte sans lendemain.
Absolument. Il l'a réédité, il l'a d'abord publié dans un recueil, et il l'a republié à très petit nombre d'exemplaires, ouais, ça c'est le dandysme suprême, en 1812, alors que sa carrière était déjà extraordinairement importante auprès de Napoléon. C'est une histoire très étrange. Napoléon lui dit, avec vous débrouiller avec l'art. Moi. Il a été organisateur du mariage de Napoléon. Il était vraiment étrange. Alors, donc, devoir de réserve. Vous imaginez qu'aujourd'hui, je ne sais pas, enfin, je pense que c'est improbable qu'un ministre, un premier ministre, un président de la République fasse tout ce qu'il fait et en même temps vous ait été capable, non pas d'écrire comme certains des poèmes qui n'ont ni que des lettres, mais ce petit récit fulgurant.
Oui. 35 pages.
35 pages, ça suffit, voilà. Ça va à toute allure et c'est prodigieusement fait. Voilà. Il y a un jeune homme qui est enlevé au cours d'une soirée à l'opéra par une dame qui a l'air très décente. Donc, comme dirait Hitchcock, c'est celles-là qui sont les plus ardentes, celles qui n'ont l'air de rien.
Alors, il y a deux versions, en fait. Il y en a une de 1777 et une autre, c'est celle 1812. Que vous allez lire tout à l'heure, de 1812, qui est plus ramassée.
Oui, c'est la meilleure.
Que Balzac va recopier dans sa physiologie du mariage.
Et oui, c'est ça. À ce moment-là, ce texte était donc presque non identifié. Balzac tombe dessus, il gaze un peu, comme on dit, c'est-à-dire il est dans la physiologie du mariage, il fait comme si c'était quelque chose qu'on lui avait raconté, etc. Oui. Ce qui prouve à quel point ce texte circulait sous le manteau, en quelque sorte, dans une époque qui était devenue très puritaine, parce que vous savez, ça vient. Donc là, c'est la version 1812, qui est la meilleure. Il a retravaillé un petit peu, il a fait éditer, et c'est l'exergue qui était tellement étonnant. Enfin, la lettre tue, l'esprit vivifie, ESP, alors, épître de saint Paul pour un conte libertin. Enfin, ça, c'est absolument délicieux. Et l'esprit vivifie.
La première version, celle de 1777, apparue dans le Mélange littéraire ou le Journal des Dames.
De Dora, oui.
Et elle est précédée d'un avertissement où Dora indique que le fond de ce conte est vrai.
Oui, c'est ça. Le fond de ce conte est vrai. Et pourquoi est-ce que dedans ne signe... Si, il y a M, la fameuse... MGDOR, monsieur de nom, gentilhomme ordinaire du roi. C'est assez facile à déchiffrer. Mais c'est une époque où on aime bien les messages un peu cryptés, les signatures qui n'ont comme ça.
Point com.
Oui, c'est ça, point com. Oui. Point pas commun du tout. Point pas com.
Le titre n'est pas commun non plus. Point de lendemain. Il ne faut pas comprendre ça comme le récit d'une aventure sans lendemain.
Non, s'il avait voulu dire sans lendemain, il n'aurait pas dit point de lendemain. Point de lendemain, ça consiste à mettre un point final et à se dispenser de toute morale. C'est la fin du récit. Je cherchais une morale à toute cette histoire et je n'en trouvais pas. Donc c'est simplement une réflexion toute merveilleuse. Sur la simulation féminine, le fait qu'elle joue, cette femme joue sur trois hommes, son mari, son amant officiel et ce jeune Denon, qui nous livre une part de son autobiographie, avec qui elle semble avoir des sensations qu'elle n'a pas avec les autres.
Pour vous, Philippe Soler, ce point de lendemain, ce récit réputé libertin, c'est aussi à lire comme un conte métaphysique.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, puis c'est une réflexion sur le temps, c'est une réflexion sur la simulation féminine. La jouissance féminine est âgée, n'est-ce pas, en plusieurs étapes. Et c'est en effet un récit d'initiation, ça tous les commentateurs s'accordent, avec tous les arrière-plans que ça suscite, enfin que ça évoque. Donc c'est une libération, l'apprentissage de la liberté. Mais au lieu d'être long Et bien ça se fait en une nuit, à toute allure, avec pourtant des pauses très significatives selon qu'on est sur un banc de gazon, dans un petit, une petite folie. Tout, vous comprenez, là c'est tellement bien orchestré, ça ne peut pas vraiment se sentir au théâtre. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir, avoir dans la bouche les mots. C'est très astucieux. Il n'y a pratiquement rien d'obscène. Mmh. Et pourtant, c'est beaucoup plus troublant. Enfin, c'est le contraire d'aujourd'hui, ça. Ouais.
Mais quand vous résumez Point de lendemain dans ce fameux chapitre 4
une leçon de nuit, oui.
De votre livre Le Cavalier du Louvre, Vivant de nom, vous racontez quelque chose qui pourrait ressembler à un roman de Philippe Solers. Hein,
oui.
Les hommes, les femmes, leur intrigue permanente, leur rencontre abusée, leur rôle parallèle et contradictoire, l'absence de morale de cette circulation, mmh. Et pour cause...
Il y a de l'escroquerie. L'escroquerie. Il y a aussi le fait, et peut-être dedans y a-t-il mis la main, qu'il y a eu une version pornographique de Point de lendemain. Il y a une autre version, beaucoup plus hard que le récit lui-même. Bref, ce type est bizarre. Oui. C'est un récit qui nous montre à quel point d'abord, les femmes étaient au courant à cette époque-là. La française avait une très grande aisance dans ses aventures. De toute façon, ça se sent dans toute la littérature du temps. Après quoi, eh bien, nous passons un tunnel et Madame Bovary va faire scandale pour pas grand-chose.
Et là, c'est Madame de T qui décide de la mise en scène.
T, trois points. Madame de T. Oui, eh bien, c'est une héroïne qui devrait être aussi connue que Madame de Merteuil ou que Juliette de Sade, tout en nuance. Mmh. C'est-à-dire le pouvoir féminin, le pouvoir de séduire, de mentir, de se dissimuler. Vous savez, le fin mot de Point de lendemain, c'est ce que dit Madame de T, qui est aux antipodes, encore une fois, de l'époque que nous vivons, c'est la discrétion est la plus grande des vertus. On lui doit bien des instants de bonheur. Donc c'est une apologie de la discrétion.
Oui.
Nous vivons une époque d'indiscrétion généralisée, c'est-à-dire de très peu d'érotisme. Bon, on peut faire de la porno, mais ça n'a rien à voir avec ce qui peut faire jouir en état de discrétion.
C'est-à-dire qu'on met aujourd'hui la charrue avant les bœufs, quoi.
Oui, et les bœufs sont fous, comme vous savez, puisqu'ils sont spongiformés par la vache folle.
Alors que là, toute la question, c'est la question de l'échauffement.
L'échauffement, le but n'est pas automatique, ça pourrait s'arrêter. Il faut être un peu doué, on voit d'abord... il faut pas s'embrasser, et puis alors on s'embrasse, mais, et puis alors un baiser attire l'autre, si ça marche tant mieux, mais ça ne roule plus. Voilà. Rien n'est obligatoire.
Mais l'excitation doit monter.
Voilà, l'excitation doit monter, et en réalité après ça on bascule dans la chose la plus poignante, pressante, et... finalement, c'est une sorte de couronnement. Vous avez beaucoup de tableaux de cette époque. Et, enfin, vous avez qu'à vous arrêter un petit peu devant un Fragonard et vous avez Point de lendemain de Vivant de nom, notamment les panneaux qui sont exilés à New York de la collection, à l'Afrique Collection. On doit se demander pourquoi ils sont partis de France. Mmh. Ben, ils sont partis de France parce qu'on préférait des choses plus conventionnelles. Voilà. L'amant couronné.
Oui. Vous citez Fragonard, Philippe Solers, mais dans votre texte, il y a un autre nom qui vient sous votre plume, c'est celui de Mozart. Hein. Vous dites qu'il faut entendre ce texte sur un fond de Mozart.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La biographie de Mozart permet de comprendre aussi, et sa musique, de quoi il était question dans ces échanges extrêmement subtils entre les sexes lorsqu'ils ne sont pas définitivement séparés hein, par une guerre, par pire qu'une guerre, hein, par une fracture infranchissable. Ça, c'est le problème fondamental. Vous prenez cet art du 18e, Mozart, évidemment, Così fan tutte, par exemple, et vous voyez que les travestissements, les rôles, même les personnages de Watteau, déjà, justement, les personnages de Fragonard, les hommes et les femmes sont des êtres qui sont presque les mêmes dans des paysages enchantés, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ils sont pas là comme les hommes ou les femmes, mais comme des papillons qui seraient presque lucides sur leur vie éphémère et qui pensent que le temps est urgent à prendre.
Mmh. Le vrai sujet de Point de lendemain, selon vous, c'est la liberté.
C'est cette liberté-là, c'est-à-dire... vous savez, il y avait la peinture religieuse ou la peinture mythologique, c'est-à-dire brusquement, il y a eu des fêtes galantes même. Verlaine s'en est souvenu, et Rabeau aussi, ô combien. Les illuminations sont un réflexe vers cet enchantement. Le paradis est possible, là, tout de suite, dans un parc, avec des musiciens, voilà. Et bien sûr que ça choque quelque chose comme une pulsion de mort qui rôde, et donc c'est puni. Mmh. Ça a été puni.
Liberté pour la femme aussi, qui dans ce récit s'organise seule pour son propre plaisir, sans avoir de compte à rendre à personne.
Oui, c'est une image extraordinaire de la liberté. Qui peut valoir pour aujourd'hui, ô combien, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Il y a un mari grognon, il y a un amant officiel qui se doute de rien, et puis il y a cette aventure qui est très déterminée par le fait que la femme en question a envie de l'enlever à sa meilleure amie. N'est-ce pas ? N'oubliez pas que les relations là entre femmes sont aussi extrêmement subtiles.
Vous ébauchez quelques hypothèses même à ce sujet.
Subtil, voilà, c'est ça. Et donc, ne me brouillez pas avec la comtesse. Donc, cette madame de T s'échauffe de prendre un homme à sa meilleure amie. Ça fait aussi partie du jeu. Tout ça est donc sans morale particulière, mais décrit avec cet art de la guerre. Qui est en même temps très soyeux.
Une histoire de liberté et aussi, comme vous l'écrivez, Philippe Soler, c'est une histoire d'élection, de grâce, de gratuité, dont on va entendre maintenant votre lecture. Alors faites bien attention à la fin du texte, vous verrez que le dernier mot, c'est le mot « point ».
Évidemment.